Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Leroy. J'ai été maire pendant 2 mandats sur une petite commune de 500 habitants, mais qui fait partie de Serre-Chevalier, donc au sud-est de la France, Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes. C'est une commune qui se situe à 1500 mètres d'altitude. J'ai été vice-président de comité de commune. Je suis aujourd'hui deuxième adjoint par choix. Je suis contre le cumul des mandats dans la durée et je reste président du pays Grand Briançonnais. C'est à peu près un tiers du département des Hautes-Alpes, l'équivalent de 36 communes, 3 communautés de communes, sur un superbe territoire évidemment, avec le parc des Écrins et le parc naturel régional du Caira.
Donc voilà. Très bien Pierre, merci pour ce premier niveau de présentation. Donc, je me présente aussi André Genet, donc je suis l'animateur de ce cycle d'émissions. Et donc nous allons, à partir de l'histoire de Pierre, qui va développer un peu davantage naturellement, essayer de traiter cette question du participatif territorial. Quelle place laisse le participatif aux élus? Dans quel sens leur rôle se transforme? Est-ce que leur rôle est amoindri, compliqué ou pas? Et aussi l'articulation entre le participatif démocratique, la participation à la prise de décision, et le participatif financier. Est-ce qu'il y a des liens, des articulations entre ces deux dimensions et quel est leur sens? Voilà, donc Pierre, si vous voulez un petit peu peut-être indiquer comment vous avez commencé sur votre territoire, donc la commune où vous étiez en responsabilité, puis le pays qui comporte, je crois, plus de 35 000 habitants. Comment vous avez commencé à travailler sur ces questions de participation et pourquoi?
Alors, au début des années 1980, j'étais dans un milieu associatif et politique et j'ai fait beaucoup contre. C'est-à-dire que j'ai porté plainte contre un incinérateur, nous avons porté plainte contre un altiport fait sans permis de construire, nous avons porté plainte, etc., etc. Donc beaucoup en action contre, et c'est vrai que ça ne me satisfaisait pas. J'avais la sensation qu'il y avait beaucoup de clivages, qu'en tant que citoyens, nous n'étions pas entendus, que nos propositions n'étaient pas du tout, elles étaient d'emblée mises de côté, jusqu'au jour où je me suis dit, en quelque sorte, il faut prendre le pouvoir pour pouvoir agir. Et donc, en 2007, j'ai monté une liste citoyenne qui a été élue à l'unanimité en 2008. Et donc, nous avons décidé, nous, par contre, de faire avec la population. Donc, dans les premiers mois de notre mandat, nous nous étions engagés à solliciter tous les habitants de la commune, y compris les enfants de 10 ans, pour qu'ils donnent leur avis sur les projets du territoire. Et ça a été la première étape, en quelque sorte, de ce travail collaboratif. En sachant que moi, je suis tout à fait respectueux de la démocratie représentative. Pour nous, c'est essentiel. La commune fonctionne depuis très longtemps. Elle a montré ses preuves et que le citoyen, en quelque sorte, est tout à fait satisfait d'avoir des élus qui sont là pour faire, pour mettre en œuvre. Mais on l'a vu récemment, en particulier avec l'épisode sur les gilets jaunes, que la population, dorénavant, souhaitait donner son avis. Et c'est vrai qu'on a la sensation que ces dernières années, sans faire de caricature, la démocratie a été un petit peu dévoyée, dans le sens où les élus locaux avaient tout le pouvoir et que les citoyens en étaient bien satisfaits dans la mesure où ils se déresponsabilisaient de leur propre devoir, ne serait-ce que de s'informer de ce qui se passe sur leur territoire. Et finalement, ça a fonctionné un certain temps, sauf que les élus, en particulier des petites communes, sous la charge, petit à petit, se sont bien épuisés. Et puis les citoyens ont voulu donner un avis. Et on arrive à un moment, je pense, stratégique, où justement, il y a une nouvelle démocratie qui se met en place entre donc les élus avec la démocratie représentative et les citoyens avec la démocratie participative. Et c'est ce travail très intéressant qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre.
Est-ce que vous pouvez illustrer, donc on a vu pour la construction, si je puis dire, de votre liste et de son programme, ensuite concrètement, quelle forme ça a pris cette association des habitants à la gestion?
Alors, d'une part, en effet, vous avez parlé de programme. C'est-à-dire que l'équipe municipale propose. Elle propose un certain nombre de choses. Et à partir de là, si elle est élue, c'est aussi sur ce programme. quand on a été élu à 65% et puis au deuxième mandat avec 85% des voix, on peut considérer que le contenu du programme est validé en quelque sorte. Sauf que le long du mandat, pendant 6 ans, il se passe plein d'événements. Et quand, par exemple, on fait une révision du plan local d'urbanisme, qu'est-ce que c'est qu'un plan local d'urbanisme ? C'est un projet de territoire. Ce n'est pas qu'un document réglementaire. C'est comment, demain, nous allons construire le village désirable. Et donc, là, c'est évident qu'il n'est plus question pour nous de démocratie représentative. Il faut que ce projet de territoire, à travers le plan local d'urbanisme, soit co-construit avec les citoyens. Donc, la loi impose aux communes de faire une réunion d'ouverture, une réunion de fermeture sur les plans locaux d'urbanisme. Nous, on a fait 12 ateliers de travail. Et d'accord. Durant ces 12 ateliers de travail, ce sont les citoyens qui ont fait le PLU. C'est eux qui ont décidé des zones constructibles. C'est eux qui ont décidé de comment on allait évoluer sur l'énergie, sur l'agriculture, sur le tourisme, sur etc., etc. Donc, tous les sujets, vraiment les sujets du quotidien des citoyens, ont été mis sur la table sur ce moment privilégié qui a duré plus d'un an, où là, on est sur un projet de territoire.
Ok. Et alors, pour les questions d'énergie, vous avez construit aussi une structure originale avec une relation originale avec les habitants.
Alors, tout à fait, oui. Alors, ça faisait partie de notre programme en 2007, inspiré par des voisins, en particulier les Autrichiens au Vorarlberg, qui pour ça sont... Enfin, ils ont 35 ans d'avance. Alors, c'est sûr que ça inspire, ça donne des idées. Et on a proposé aux citoyens, avant les élections, donc ça faisait partie de notre programme, que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Et là-dessus, dès que nous avons été élus, on a organisé une première réunion. Les citoyens ont été présents et on leur a exposé notre projet. Les citoyens ont dit « on est d'accord, on y va ». Et donc, on a créé une société. À l'époque, les coopératives, les SCOP, les SIC étaient très peu développées. Et en plus, nous, étant nouvellement élus, ce n'était pas notre argent, c'était de l'argent public dont il était question. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi la société d'économie mixte locale, parce que la commune était majoritaire à 51% minimum, et donc ça nous faisait garder la maîtrise de l'outil, et les citoyens ont abondé sur la création de cette société au niveau du capital social. Au début, on a commencé tout petit, hein, parce que la SEV, donc c'est la société dont il est question, soleil, eau, vent, énergie, la première enfance, la première société qui associait des citoyens au capital, eh bien, la SEV a été créée donc de fin 2010, je crois, et donc les citoyens ont été partie prenante et ont pris des actions dans la société. Aujourd'hui, nous avons 20 centrales photovoltaïques reliées au réseau et on produit beaucoup plus que la consommation de la totalité des citoyens, des habitants de la commune. Les habitants de la commune qui ont participé au financement, eh bien, ont touché 5 années des dividendes suite aux résultats très positifs de cette société qui a grandi. Aujourd'hui, on a un capital social à 900 000 euros. Nous avons pollinisé les voisins, donc la communauté de communes, d'autres citoyens sont entrés au capital et on continue notre aventure de production d'énergie renouvelable tout en ayant travaillé préalablement sur la sobriété et l'efficacité énergétique du territoire.
Très bien. Et donc, quels sont les avantages, les contraintes, les limites, les conditions de succès de ce type de programme ? Je pense par exemple à cette société SEV.
Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Là, en l'occurrence, ce projet était porté par une collectivité, vous l'avez compris, c'est la commune qui était à l'initiative. Mais en France aujourd'hui, depuis d'ailleurs, il y a eu beaucoup de coopératives citoyennes qui ont été construites, en particulier sur notre territoire. Moi, j'ai fait un certain nombre de conférences sur la société SEV. Et donc, il y a eu 4 coopératives sur le département qui ont été créées, là, pour le coup, par des citoyens, qui parfois ont réussi à embarquer des communes. Donc là, c'est vraiment un travail de bénévole qui nécessite un fort engagement. C'est vrai que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, une coopérative permet de rentrer au capital au fil de l'eau, alors qu'une société d'économie mixte nécessite une ouverture à capital très encadrée par la loi. Donc, on ne peut pas y rentrer comme ça le lundi ou le mardi ou le mercredi. Alors que les coopératives, c'est le cas. Donc, ça facilite les choses. Par contre, quand c'est une société d'économie mixte et donc la commune ou les communes sont majoritaires, ça donne plus de puissance. Là, en l'occurrence, nous, on a embauché du personnel. C'est souvent moins collaboratif, mais ça permet d'aller plus vite et plus loin. Donc, il y a pas un système idéal. Hein. Je pense que il faut combiner différents systèmes. Ce qui est important de mon point de vue, c'est que ce soit les usagers qui soient quand même à la manœuvre. Et d'ailleurs, ça a été très travaillé par des scientifiques, en l'occurrence Elinor Ostrom, qui en 2009 a eu le prix Nobel, qui a travaillé sur la notion des communs. C'est-à-dire que il n'est pas question de privé, il n'est pas question de public, il est question d'usager. Et nous, sur le territoire, c'est vrai qu'on a une expérience à ce sujet, à travers les canaux d'arrosage, à travers la gestion des alpages, où là, dans le passé, hein, et je vous parle de ça, parfois il y a 1000 ans, parce que il y a un millier d'années, les canaux ici fonctionnaient déjà. Et ce n'était ni propriété de la commune, ni propriété privée. C'était les usagers qui en avaient la fonction de cette affaire.
Et donc, c'est vrai qu'à partir du... Il y a une culture du commun, et tout cela confirme bien le fait que le commun n'est pas le monopole du public. Le commun, c'est aussi la responsabilité commune.
Alors, c'est un grand débat, là. La question que vous posez était en effet très complexe. Et je vous assure que scientifiquement, il y a eu des recherches très poussées à ce sujet, hein. Moi, personnellement, je ne pourrais pas vous donner la solution. Je reste persuadé qu'à partir du moment où les usagers sont à la manœuvre, ils ont tout à fait intérêt à ce que l'objet de l'usage soit respecté dans la durée et dans la pérennité. Donc, quelque part, un privé, il change d'avis, il change de projet, il déménage et tout tombe à l'eau.
Donc, si on accroît le niveau de participation à la prise de décision et si on accroît le niveau d'implication financière, qui est quand même un engagement fort et durable, et si on est en proximité, on a des chances accrues d'avoir une bonne mobilisation, une bonne appropriation et un bon contrôle de l'équipement.
Je suis tout à fait d'accord. En effet, je pense que ce sont des outils véritablement qui sont efficaces. Encore faut-il être vigilant. Il reste quand même, comme je le disais tout à l'heure, que les communes ne sont pas prêtes de disparaître. Donc c'est quand même une entité qui est là, présente, qui a montré ses preuves, qui a un regard bienveillant quand même sur ce qu'il se passe sur les territoires, évidemment. Donc se passer des communes me semble difficile. D'ailleurs, même avec les communs, il y a des relations étroites entre, par exemple, l'ASA, l'association syndicale autorisée qui gère les canaux d'arrosage, est en relation très étroite avec la commune. Et il y a des échanges permanents. L'association foncière pastorale qui gère 1000 hectares de terre et qui les met à disposition des agriculteurs, même chose, est en rapport constant avec la commune.
Donc l'implication des habitants ne réduit pas l'importance de la commune ni l'importance des élus, dont le rôle est quand même transformé un peu par cette implication
citoyenne. Oui, mais je pense que ça quelque part, quand vous avez l'assentiment des citoyens, vous partagez aussi la responsabilité. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, je vous parlais du plan local d'urbanisme. Si le plan local d'urbanisme est réalisé avec le soutien de toute la population, ben, c'est très confortable pour les élus. Parce que quand il y a un citoyen qui vient vous voir en disant « mais je suis pas content du PLU », ben, vous êtes là, en l'occurrence, il est facile de dire à cette personne « mais vous étiez où quand tout s'est décidé ? Il y a eu 12 réunions publiques. Pourquoi vous n'avez pas participé ? C'était le projet de votre territoire. » Donc, quelque part, il se trouve qu'il y a souvent des élus qui ont peur de la citoyenneté. Ben, je crois que non, au contraire. Les citoyens, on l'a vu dans la convention citoyenne, les citoyens ont une très forte compétence, sont capables en peu de temps d'acquérir la même chose que ce que les élus acquièrent en étant élus en termes de formation, et sont capables, ils ont une expertise. Moi, je viens du domaine de la santé publique. Il y a un concept qui s'appelle l'empowerment. L'empowerment, c'est quoi ? C'est redonner le pouvoir au patient, parce que le patient, il a peut-être pas l'expertise du médecin ou de l'infirmière, mais le patient, il a l'expertise de lui-même. Moi, ça fait 59 ans que je vis avec moi, j'ai une certaine expertise de ma personne. Et là, en l'occurrence, le citoyen, il a une certaine expertise de son territoire. Qui sont les sachants, en l'occurrence ? Je pense que les citoyens sont des sachants. Et puis, évidemment, s'ils participent au processus de décision, évidemment, ça éloigne la capacité d'erreur. Quand on se retourne sur le passé, on se dit « oulala là là, !» S'il y avait eu des décisions qui avaient été construites, co-construites, peut-être qu'il y aurait eu moins d'erreurs.
Donc la participation démocratique, pour élaborer les projets, elle concerne quelle part de la population? Et la participation financière aussi, elle concerne quelle part de la population?
Je pense qu'on ne peut pas en juger de cette sorte-là. C'est-à-dire que la participation citoyenne est un long processus. Les citoyens ont perdu l'habitude de participer. Ça veut dire que quand les élus décident de relancer cette participation citoyenne, ça c'est pas en claquant des doigts, hein. C'est pas comme ça, instantané, parce que les élus ont envie. Il va falloir se réapprivoiser. Donc ça, c'est un long processus, ça prend du temps, et c'est sur du long terme. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, eh bien ça, il faut le mettre en œuvre. Il n'y a pas un dosage, mais je pense que plus on fait participer les citoyens, plus ils participent, et plus ils prennent conscience des enjeux, des responsabilités aussi, de la complexité des décisions. Donc ça facilite le lien, ça casse les clivages entre les élus, les citoyens, le monde de l'entreprise. La transition écologique, elle sera à ce prix-là. Si on n'est pas en capacité de casser les clivages, si on n'est pas en capacité de se rapprocher, de se serrer les coudes en période de crise, c'est évident qu'on va à l'échec. Par contre, si on a la patience de construire, d'apprivoiser, d'aller vers l'autre, de ne pas faire preuve de dogmatisme, d'écouter, de laisser le temps aussi de la prise de conscience des choses, eh bien, je pense qu'on peut arriver à des résultats très positifs.
Très bien. Et alors, même question quand même sur la part de gens qui participent sur le plan financier, parce que vous les avez mesurés, ceux-là, ils prennent une décision repérable.
Mmh. Ben, sur la participation financière, c'est un petit peu du même ordre. Il faut de la confiance. Et puis ensuite, il peut se passer des choses très surprenantes. Vous avez des étudiants de 20 ans qui prennent des parts. Ils sont pendant leurs études, ils n'ont pas d'argent. Mais moi, il y a une jeune fille de 21 ans qui m'a dit « j'aimerais bien avoir un petit bout des capteurs solaires qui sont sur le toit de la mairie ». Ben voilà, elle a mis 300 euros. Elle a pris une part. Mais voilà, c'est un engagement personnel. Et à la limite, c'est pas tant la quantité, c'est la multiplicité des acteurs, c'est le fait que chacun fasse sa part. Et ça, bah oui, il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent mettre 15 000 euros, parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, de plus en plus de personnes dans la population sont très méfiants vis-à-vis des banques, en sachant que où va mon argent? Et d'ailleurs, beaucoup de banques se mettent justement à investir dans des domaines de la transition, parce qu'ils sentent bien que dans les énergies fossiles, eh bien, c'est plus la solution, et que beaucoup de citoyens s'écartent des banques et sont prêts, et les gens ont beaucoup d'argent, hein. Les gens sont prêts à investir dans des choses qui ont du sens et dans des choses qui sont respectueuses.
Ils sont très heureux de le faire.
Tout à fait.
Ils aiment beaucoup être acteurs. Donc, voilà. Il y a là une attente et finalement, la finance, c'est un des moyens d'implication, d'engagement et d'engagement dans la durée parce que toutes ces solutions sont des solutions qui engagent durablement. Le participatif financier, que ce soit du don avec contrepartie, du prêt ou du capital, ça établit un lien évidemment durable et qui plus est dans la proximité le plus souvent. Et donc, il y a effectivement une construction et donc un support pour le changement culturel, l'éducation, le changement de comportement positif, etc. On peut dire ça.
Les élus sont des animateurs et le rôle des élus, c'est d'arriver à proposer des solutions aux citoyens pour changer de pratique et leur mettre des outils à disposition pour qu'ils puissent s'investir et que chacun puisse faire sa part. Il y a certaines personnes qui ont de l'argent. Bon, ben, c'est leur façon de faire leur part. Il y en a d'autres qui ont du temps. C'est leur façon de faire leur part. Il y en a d'autres qui ont des compétences manuelles. Le rôle de l'élu, c'est d'aller chercher ces compétences et de les mettre à disposition. Moi, je vois tellement de gens qui s'ennuient alors qu'on a tout à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on va être en capacité de faire pour les mettre en mouvement? Là, très récemment, on a dit aux habitants, voilà, nous, on a une idée. Ça peut être un projet si vous en avez envie. On met à disposition 2 hectares de terres agricoles et on vous propose de créer un verger participatif. Et les gens nous ont dit, oui, mais comment on va faire? On leur dit, nous, on ne sait pas. À vous de voir quel type d'organisation vous pouvez mettre en œuvre pour faire ensemble. Et à vous de vous organiser. Nous, on vous met à disposition les terres. On achète même du matériel. On peut acheter les arbres si vous voulez, sans problème. Maintenant, c'est à vous de faire. C'est à vous de vous fédérer, de vous organiser. Vous savez, c'est dans l'action que les gens se rapprochent. C'est pas dans le blabla. Il faut prendre la pelle et la pioche. Et là, on se rapproche.
Là, vous évoquez toute une série de projets extrêmement heureux qui d'ailleurs ont eu beaucoup d'influence puisque vous avez inspiré beaucoup d'autres territoires. il y a aussi, au-delà des projets qui sont portés par la commune ou qui sont portés par même des habitants dans le domaine du développement durable, il y a aussi toute l'activité spontanée des porteurs de projets et des plateformes de financement participatif qui peuvent offrir sur les territoires des possibilités, si je puis dire, spontanées et indépendantes de l'activité municipale ou des grandes orientations locales. Donc,
bien sûr.
On peut penser que ce qui se passe, ce qu'on a évoqué lors d'une précédente émission en Ardèche ou en Corrèze, où on facilite le déploiement des porteurs de projets et des épargnants tous azimuts, est aussi une manière de créer cette ambiance propice à l'engagement, à l'appropriation du traitement des défis territoriaux.
Bien sûr. D'ailleurs, nous, on a créé un journal qui a été inspiré de Philippe Bertrand sur France Inter. J'ai appelé Philippe Bertrand et en lui disant, ben, nous, on aimerait bien faire carnet de montagne sur l'exemple de carnet de campagne qui fonctionne avec le castage. Donc, les gens castent, les gens dénoncent les choses positives faites par leurs voisins. Je trouve ça génial. Et donc, nous, on a créé carnetdemontagne.online et on a fait un journal qui montre tout sur le territoire, tout ce qui se passe sur les éléments de la transition, sur les déchets, sur la mobilité, sur l'énergie, sur le logement, etc. Et là, il faut qu'on communique entre nous sur les choses positives du territoire. De la même façon, on a créé un événement très particulier qui a fait beaucoup de bruit, qui s'est appelé 36 communes en transition, avec Cyril Dion, et on a organisé un événement en simultané dans 36 lieux, bars, épiceries, bibliothèques, à domicile, salles municipales. Tous les habitants du territoire qui l'ont souhaité se sont réunis dans le lieu de leur commune, dans 36 lieux. Et là, on a passé le film « Après-demain » de Cyril Dion. À la suite de ça, les gens ont débattu entre eux sur le village désirable. Et puis à la suite de ça, on a fait une conférence avec Cyril qui était transmise en direct partout à la télévision, où les gens pouvaient nous solliciter par des questions en direct. Ça a fait un carton. Et on a expliqué aux gens comment, sur la transition écologique demain, ils pouvaient s'engager à titre individuel. Le pays Grand Briançonnais, donc le PETR du Grand Briançonnais, a signé un des premiers contrats de transition. Et on a dit aux citoyens, vous prenez votre téléphone quand vous avez une idée, vous appelez le PETR et nous, on va vous aider à construire votre projet. Donc ça,
très bien.
Ça c'est des outils qui peuvent permettre vraiment le changement sur les territoires.
Très bien, on apprécie le dynamisme et la vitalité de ces projets de votre pays. En conclusion, qu'est-ce que vous pourriez donner comme élément d'information, de mobilisation pour des territoires ou des responsables qui hésitent à passer à l'acte? Qu'est-ce qui peut les aider?
Je dirais, il y a qu'une chose, c'est faire ensemble. Ça veut dire casser tous les clivages. Ça veut dire accepter les idées différentes, ça veut dire se fédérer, se coordonner, décider qu'il n'y a pas d'adversaire. Là, on a un enjeu en face, une crise phénoménale qui n'est pas que sanitaire, qui est environnementale, qui est sociale, qui est économique. On a une multiplicité de crises. C'est l'occasion inespérée de faire ensemble et de sortir par le haut d'une situation qui n'était pas déjà à ces années précédentes très satisfaisante pour nombre de gens. Et là, on a une opportunité. Là, on peut véritablement créer quelque chose de désirable, changer de modèle. Pour cela, c'est évident, c'est faire ensemble.
Très bien, ben merci beaucoup, vraiment. Donc, on peut dire que la participation, c'est à la fois un moyen efficace de traitement des grands défis contemporains et un moyen aussi de favoriser l'accomplissement personnel et l'accomplissement social des habitants. Vraiment, ce témoignage est extrêmement nourrissant. Merci beaucoup. Je voudrais, en cette fin d'émission, avoir une pensée pour Raphaël Souchier, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours, qui était intervenu dans une précédente émission de façon très brillante sur l'entreprise locale, cette entreprise qui bénéficie, parce qu'elle est dirigée et financée localement, qui bénéficie de conditions de développement et de conditions aussi de comportement, de vertus environnementales et sociales tout à fait remarquables. Notion dégagée par le chercheur américain Michael Schumann et bien mise en valeur par Raphaël dans son bouquin Made in Local. Et donc, on a vraiment une pensée pour Raphaël et pour ses proches. On lui dédie évidemment cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Oxygène. les grandes causes nationales qui font débat.